Voilà, c'est parti. Donc moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et en sciences de l'information et je travaille autour des usages du numérique. Je suis aussi enseignant dans un DUT métier du livre et des bibliothèques et j'ai notamment beaucoup travaillé autour du projet Google Books de numérisation, ce qui m'a amené donc à regarder un petit peu la manière dont ces outils-là fonctionnaient et changer un certain nombre de repères dans le monde des bibliothèques. Donc pour introduire cette journée, je vous propose une réflexion autour effectivement de l'idée de considérer finalement le web comme une grosse collection. Alors on va voir ce qu'on met dans cette collection-là. Donc je suis parti d'une définition, on va dire, à minima de ce qu'on peut appeler une collection, c'est-à-dire un ensemble de documents qui présentent des caractéristiques communes sur le plan matériel ou intellectuel. Et puis sur une définition également à minima d'un catalogue, c'est-à-dire un outil qui va permettre de trouver, de localiser un certain nombre de ressources documentaires. Et partant de là, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit dans l'inconscient collectif ou dans le conscient exprimé parfois autour des bibliothèques, autour du web, on entend il y a une espèce de discours récurrent qui indiquerait que les gens n'iraient plus trop en bibliothèque, ils n'y vont plus parce qu'ils n'ont plus trop d'intérêt pour les collections, ils n'y vont plus parce qu'il y a ce média qu'on appelle Internet, et que comme il y a Internet, et bien un certain nombre des collections disponibles jusqu'ici en bibliothèque perdraient de leur intérêt. Sauf que sur le web, si on essaie de regarder factuellement quels sont les sites qui sont les plus consultés, les plus utilisés, à part par Google et Twitter par exemple, ou quels sont les sites qui disposent du plus gros volume de ressources documentaires et de contenu, ben on s'aperçoit que parmi ces sites-là, il y a évidemment Wikipédia, il y a aussi YouTube, Flickr pour des photos, Tumblr, une plateforme de micro-blogging, Facebook, et puis des sites qui permettent d'écouter de la musique en ligne comme Deezer et Spotify notamment, plus un certain nombre d'autres. Et quand on s'interroge sur les raisons pour lesquelles les gens fréquentent ces sites-là, eh bien, les gens fréquentent ces sites parce qu'ils cherchent des réponses de nature encyclopédique, donc là ils se tournent vers Wikipédia, du divertissement, ils vont sur YouTube, de la musique, donc on l'a dit, Deezer et Spotify, des contenus thématiques proches de leur intérêt ou de leur recherche. Et là, effectivement, ils ont cet outil qui s'appelle Tumblr, où il y a tout un tas de blogs thématiques, mais aussi ils cherchent à échanger, à contacter des gens, d'où la prégnance des réseaux sociaux. Et finalement, ben, les gens ils font sur Internet ce qu'ils faisaient avant un petit peu en bibliothèque ou en médiathèque, c'est-à-dire ils vont chercher des contenus qui sont plus ou moins structurés, tout l'enjeu étant autour effectivement de ce plus ou moins structuré. Alors si on essaye de réfléchir aux points communs, à part le fait qu'ils drainent un maximum de trafic entre ces différentes plateformes, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, par nature, ces sites-là sont des collections. Donc Wikipédia est une collection d'articles, YouTube est une collection de vidéos, pardon, des collections qui sont thématisées, des collections pour lesquelles certains de ces sites proposent un accès de nature, j'ai envie de dire catalographique, même si on pourra discuter là-dessus. Facebook n'est rien d'autre qu'un immense catalogue ou qu'une espèce de pan-catalogue de profils. Deezer et Spotify, tous les sites d'écoute musicale en ligne, sont des sites qui se caractérisent d'abord par la mise à disposition d'une offre de type catalogue d'édition musicale. Donc on a effectivement des sites qui drainent le maximum d'attention, qui sont des collections et des catalogues permettant d'accéder à ces collections. Et quand on regarde ce panorama des médias sociaux qui avait été réalisé par Frédéric Cavazza, ben on s'aperçoit qu'en fait, la totalité des services disponibles sur Internet sont abordables ou analysables sous l'angle d'une collection, d'une méta-collection ou d'un méta-catalogue. Alors le postulat de départ, mais on pourra en discuter et en débattre, c'est que effectivement, quand on essaye de regarder un petit peu l'histoire du web, cette histoire du web n'est rien d'autre qu'une histoire de collection. Et il y a quatre grands temps, quatre grands moments dans cette histoire-là. Il y a eu d'abord au tout début le web des pionniers où on échangeait principalement de l'information par le biais de messages électroniques sur des forums et des babillards. Là aussi, ces messages sont aujourd'hui accessibles sous forme d'archives à la manière d'une collection thématisée. Il y a ensuite eu le web grand public avec l'arrivée des premiers moteurs de recherche et la force de Google, ça a été par exemple, ou des autres avant lui, ça a été de considérer, de proposer un accès à ce nouveau catalogue finalement de pages et de ressources qu'était le web. Et puis sont apparus les réseaux sociaux, ce qu'on a appelé aussi le web 2.0, et là on a vu apparaître un nouvel objet documentaire qui est nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'est mis à construire des catalogues et des collections de profils humains. Et aujourd'hui, le métier de Facebook, c'est d'entretenir cet immense catalogue de près d'un milliard d'individus. Et puis demain, enfin déjà un petit peu aujourd'hui, mais essentiellement demain, on s'oriente vers ce qu'on appelle le web 3.0, le web des objets communicants. Il y a eu récemment à Las Vegas là, le Consumer Electronics Show qui s'est tenu et la thématique principale, la tendance de ce grand salon de l'innovation, c'était effectivement celle des objets communicants. Et demain, demain ou après-demain, hein, parce que souvent ça va vite, mais demain ou après-demain, effectivement, on va être amené, alors nous ou d'autres sites, à gérer des collections d'objets qui seront capables de communiquer entre eux. Et puis, il ne faut pas oublier, un des autres phénomènes marqueurs de cette culture Internet, c'est que sur Internet se répandent en permanence des collections de ce qu'on appelle des mèmes, donc des éléments culturels reproduits par imitation. Donc là, je vous en ai mis deux assez, entre guillemets, assez célèbres. En bas, vous avez cette star du show business de la chanson russe qui s'appelle Monsieur Trololo, donc avec une vidéo virale qui a beaucoup tourné et beaucoup été détournée sur Internet. Et juste au-dessus, vous avez l'image, cette image extraite d'une ancienne bande dessinée de Batman et Robin qui est reprise à toutes les sauces et qui est détournée, utilisée, etc., etc. Et quand on fait une recherche sur ces mèmes sur Internet, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un énorme volume derrière de contenu qui est généré, qui est associé à tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on est confronté sur ce média qui est Internet, après tout, on pourrait se dire une espèce de bric-à-brac totalement désorganisé, pourquoi est-ce qu'on a cette espèce d'attracteur qui fait que des éléments sont réunis dans des grands ensembles qui s'apparentent à ce qu'on peut appeler des collections? Alors, je ne suis pas du tout psychologue de formation, mais si on fait un petit peu de psychologie de comptoir, d'abord, on s'aperçoit que le désir de collection fait partie des désirs structurants qui arrivent très jeunes, hein, entre 7 et 12 ans, disent les psychologues, et qui s'apparentent à une démarche de nature narcissique. Là, je vous ai mis un extrait d'un site qui s'appelle psychologie.com, restaurer l'image de soi, en complétant cette image sans cesse d'éléments nouveaux et collectionnés, pourrait donc alors être considéré comme une valorisation narcissique. Donc on a ce premier phénomène de valorisation narcissique, on a un deuxième phénomène qui est cette économie de l'abondance, c'est-à-dire cette explosion en volume des ressources et des objets documentaires qui sont disponibles sur le web. On a un troisième phénomène qui, lui, est directement lié à la technique, c'est-à-dire que les outils actuels qu'on utilise tous les jours sur le web facilitent à la fois notre accès à ces objets-là, ils facilitent également notre manière d'organiser ces ressources documentaires. Il y a un phénomène qui, moi, me semble très important, très structurant et très déterminant, qui est le coût cognitif nul de toutes les opérations d'indexation, d'organisation, etc. C'est-à-dire que, vous le savez, quand on utilise en bibliothèque un certain nombre de vocabulaires structurés pour indexer des ressources, d'abord il faut faire un travail de maîtrise de ces vocabulaires, et ensuite il y a un travail de réflexion, de désambiguisation. Sur Internet, ce coût cognitif, il zappe, il se volatilise, puisque vous aspirez une ressource, vous la publiez sur votre site et vous faites de l'indexation libre à la volée, vous rajoutez des hashtags et il y a un phénomène ensuite de pondération par la masse, c'est-à-dire plus un mot-clé est associé à une ressource, plus on va considérer que ce mot-clé est le mot-clé le plus pertinent. Donc il y a une facilité du classement, de l'indexation. Sur ce média Internet, donc, qui est souvent vécu comme un espace transitionnel encore, hein, c'est-à-dire comme un entre-deux entre ce qui serait le monde de la vraie vie et puis une espèce de réalité numérique qui est souvent un petit peu fantasmée, dont les collections sont l'un des objets. Et quand on additionne tout ça, le côté un petit peu narcissique, le côté abondance de ressources, la facilité d'accès, le coût cognitif objectif nul de l'organisation, du classement, de l'indexation et de la republication de ces objets, eh bien, on a une explication possible de l'explosion du phénomène de collection sur Internet. Alors, il y a un exemple, moi, qui me semble très, très, très frappant. C'est ce site qui s'appelle Tumblr, donc qui est un site, une plateforme qui a été créée en 2007, qui permet, pour faire simple, de créer des blogs. Sauf que Tumblr, c'est un petit peu le nirvana de la collection, c'est-à-dire qu'il y a il doit y avoir à peu près 170 millions de blogs, 73 milliards de billets, mais ça, on a l'habitude de ces très grands chiffres sur Internet. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que l'essentiel de ces blogs se présentent comme des collections, et dans le titre d'ailleurs même de ces objets-là, de ces blogs, souvent les gens intitulent leur blog avec des collections. Donc sur Tumblr, le principe est simple, vous vous inscrivez, vous pouvez publier, et on vous propose par défaut de publier du texte, des citations, des photos, des liens, des vidéos ou des fichiers audio. Et le résultat, c'est que, encore une fois, sur Tumblr, c'est, voilà, je vous disais, une espèce de paradis ou de foire-fouille des citations. Donc, on a des collections de tout. Donc là, il y a un Tumblr, je vous ai mis avec un monsieur qui fait des collections de photos sur des barbes plus ou moins taillées et affinées. À droite, vous avez le Tumblr des meilleures citations, ou en tout cas des citations les plus étranges entendues à la télé. Vous avez un Tumblr qui est assez magnifique et que je vous conseille, qui est où il y a une centaine d'anciennes couvertures de cette magnifique collection des puffs, avec une époque où, on va dire, le marketing n'avait pas encore envahi l'espace de présentation des auteurs. Juste à côté, vous avez des collections de figurines, vous avez des collections de collections, des méta-collections, et puis des collections de n'importe quoi, avec des gens qui simplement accumulent à masse, présentent et thématisent des collections diverses et hétéroclites. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est pas parce que c'est le matin qu'il est tôt et que nous sommes dans une institution culturelle respectable qu'il faut se masquer cette réalité-là, il y a les not safe for work collections, c'est-à-dire les collections qu'il ne faut pas regarder quand on est au travail, donc des contenus essentiellement érotiques ou pornographiques, je ne vous ai pas mis de copie d'écran pour ne froisser personne, mais vous les retrouvez assez facilement, et qui sont effectivement sur Tumblr un des contenus les plus présents, mais qui là aussi sont présentés avec une approche qui est vraiment une approche de type collection, c'est-à-dire des entrées thématisées, des photos de nus sur telle partie de l'anatomie, sur telle, etc., etc. Et donc, on peut se poser la question, somme toute assez classique, c'est quoi l'intérêt finalement ? C'est quoi l'intérêt d'entretenir des collections publiques, puisque c'est un média, un espace public que le web, dans lequel on va collecter des citations débiles, des photos moches, des couvertures d'ouvrages consternantes, des images érotico-pornographiques ou des recettes de cuisine, la plupart du temps relativement immangeables. La réponse à cette question, elle est simple, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt, mais qu'on s'en fiche. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il faut arrêter de chercher un intérêt à tout. La question, c'est pas quel est l'intérêt de maintenir ces collections. La question, c'est qui a intérêt à mettre ça en place, et surtout, qui est-ce que cela peut intéresser, qui est-ce que cela peut faire réagir, peut faire sourire, peut faire réfléchir. Et à partir du moment où il y a 1, 2, 3, 10 personnes qui sont susceptibles de manifester un intérêt pour ces collections-là, la collection, de fait, sur Internet, a une justification suffisante. L'autre point, c'est que, je l'ai déjà dit un petit peu rapidement tout à l'heure, mais l'activité de publication sur Internet, l'activité de rendu public, d'inscription dans l'espace public, cette activité de partage, elle occupe essentiellement une fonction symbolique, une fonction sociale, plutôt que, à l'inverse, effectivement, du métier ou d'un des métiers des bibliothèques, plutôt que d'entretenir comme ça une vocation analytique. Et l'autre caractéristique de ce média qui est Internet, c'est que avant, et vous le savez mieux que personne, quand on fabrique, quand on organise, quand on constitue des collections, il y a une série de temporalités qui s'additionnent et qui sont assez longues. Il y a la temporalité de l'acquisition, la temporalité de l'indexation, la temporalité de la mise à disposition du public, etc., etc., etc. Et sur Internet, sur ce média-là, ces différentes temporalités fusionnent en fait, et sont rassemblées dans un même instant, c'est-à-dire que En même temps qu'on collecte ou qu'on repère un contenu intéressant, on va simultanément l'intégrer sur son site. Alors, vous êtes tous familiers des opérations de partage. Dès que vous avez une vidéo sur n'importe quel site, vous pouvez la partager, la rediffuser, la rajouter sur tel ou tel de vos comptes sociaux, la republier sur votre blog. Donc, dans le même temps, très rapidement, on repère, on collecte, on consulte, on indexe, on ajoute des mots-clés à la volée, on ajoute une petite catégorie et on publie. Donc, il y a une simultanéité de toutes ces opérations, plus le coût cognitif, je l'ai déjà dit, qui est nul de ces opérations. Alors, de manière un petit peu plus approfondie, je vous propose maintenant d'essayer de débroussailler un petit peu le sujet de l'avenir des collections autour de 5 questions, 5 angles d'attaque qui, moi, me semblent importants. Le premier, c'est la question de la complétude. Avec ce que j'appelle le syndrome de Star Wars, vous avez peut-être vu cet épisode-là où on a effectivement le Obi-Wan Kenobi là, qui va chercher, dans une représentation d'ailleurs qui est assez intéressante, de la bibliothèque et de la bibliothécaire, en termes d'imaginaire collectif. Hein, vous noterez qu'elle est toujours, elle n'a pas de lunettes, mais elle est équipée du célèbre chignon qui... voilà. Donc bref, il cherche ce brave garçon, je ne sais plus quoi, une planète ou une constellation, et il ne la trouve pas, et la bibliothécaire lui répond, les archives sont complètes et totalement sécurisées, si quelque chose n'apparaît pas dans nos archives, c'est qu'il n'existe pas. Donc là, s'installe ce fantasme d'exhaustivité, de complétude, qui est très ancien, hein, qui était déjà là, évidemment, dans les mythologies fondatrices des premières bibliothèques, qu'on retrouve chez Borges et sa bibliothèque de Babel, sauf que ce fantasme, aujourd'hui, il est vécu comme une possibilité atteinte ou atteignable. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, à la fois peut-être de certains professionnels et des usagers, il y a cette idée qu'il est possible d'obtenir, de collecter, d'organiser la totalité des informations sur un sujet. Alors cette complétude, ou ce fantasme de complétude en tout cas, le problème c'est que souvent il sert à évacuer 3 questions qui sont 3 questions vitales. La première question c'est la question de la représentativité. Une collection elle est là pour être représentative de l'ensemble des points de vue, etc. sur un sujet donné. La deuxième question c'est la question de la traçabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir remonter aux documents sources, aux documents originaux. Et le troisième élément clé qui ne doit pas être évacué par cette question de la complétude, c'est ce que j'appelle la question de l'intégrité documentaire. Je vous ai mis juste en bas une copie d'écran d'une exposition qui avait été organisée à Londres par une institution muséale tout à fait respectable autour de Churchill et de la Seconde Guerre mondiale, et où la photo, la grande affiche qui avait été choisie était une photo de Churchill, mais sans son célèbre cigare, puisque fumer c'est mal, etc., etc. Voilà. Donc le problème, c'est que cette photo était un faux, et que, enfin, c'était pas un faux, mais en tout cas, c'était une photo qui avait été retravaillée et retouchée. Donc là, on est sur quelque chose qui touche à l'intégrité documentaire, et il me semble que cette question de l'intégrité documentaire est essentielle quand on essaye de constituer des collections. Donc tout ça doit servir à réaffirmer, à relégitimer la place des bibliothèques sur ces questions, c'est-à-dire comment on fait collection et quels sont les critères qu'on va mettre en place pour donner accès à ces collections de ressources web. Et en même temps, il faut être capable de prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire, il y a un exemple qui est quand la bibliothèque du Congrès décide d'archiver ou d'intégrer dans son fonds le volume d'informations qui circulent sur Twitter. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne choisit pas a priori d'isoler un certain nombre de comptes, de personnalités célèbres qui pourraient avoir une valeur patrimoniale. Elle prend la totalité, elle passe un accord avec le site Twitter, elle absorbe et elle charge sur ses serveurs la totalité du volume d'informations publiques qui circulent sur Twitter. Et dans un deuxième temps, après avoir fait cette collecte globale, elle mettra en place une espèce de politique documentaire adaptée, une politique de collection, c'est-à-dire qu'à l'usage, en fonction des besoins, elle fera émerger ce qui, dans ce volume d'informations considérable, peut ressembler à une collection thématique. Voilà, avec l'idée derrière que le rôle évidemment des bibliothèques, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs et de médiateurs, c'est de permettre des usages collectifs. Et que si on veut pouvoir permettre des usages collectifs, y compris sur le web, il faut qu'on ait des garanties en termes de représentativité, de traçabilité, d'intégrité documentaire, de respect du droit. Donc je vous ai mis ici 2 copies d'écran. ça c'est ma gauche. À gauche, vous avez un site qui est maintenu par un bibliothécaire au Québec et qui propose effectivement de télécharger l'intégralité d'un certain nombre d'œuvres du domaine public. Et à droite, je vous ai mis un autre site qui est un site entre guillemets pirate ou illégal qui permet là aussi de télécharger des ouvrages. L'avantage, c'est que d'un côté, du côté des usages collectifs, on a une garantie, c'est-à-dire qu'on sait que quand je vais télécharger l'intégralité de l'œuvre de Jules Verne, ben, j'aurai effectivement l'intégralité de l'œuvre de Jules Verne dans des éditions qui respectent le texte original et qui, en plus, pourront être lues quelle que soit la liseuse dont je dispose, puisque vous avez les trois formats. Si je suis à droite, ici en bas, vous voyez, j'ai 52 livres de Jules Verne, donc je ne sais pas si c'est la totalité de l'œuvre, je ne sais pas combien Jules Verne a écrit d'ouvrages, je ne sais pas quel est le format, et je ne sais pas si ces ouvrages respectent le texte original. Deuxième question, c'est la question de la cardinalité. Quand on parle des collections sur le web, ou du web comme collection, il faut changer de perspective, c'est-à-dire il faut passer de l'horizontalité à une dimension qui est celle de la verticalité. Et Internet a installé trois figures, trois modèles de la verticalité que je vais vous décrire rapidement. Le premier modèle, c'est une verticalité légère, c'est-à-dire c'est la verticalité du palimpseste. Sur Internet, sur le web, les documents, et notamment le plus grand palimpseste de toute l'histoire de l'humanité, ça, c'est Wikipédia, puisque Wikipédia, le principe, c'est que vous avez accès en permanence derrière aux différentes étapes d'écriture et de modification d'un article. Mais au-delà de ça, il y a aussi un modèle de nature palimpsestique qui est tous les systèmes d'abonnement, de souscription. Vous avez les petits fils RSS que vous pouvez tirer, que vous pouvez amener sur votre site web ou dans votre logiciel de courrier électronique et qui, littéralement, hein, ces abonnements, ces souscriptions, ce sont des écritures en dessous. Hein, c'est subscribere, donc c'est se soumettre quelque part à une espèce d'autorité supérieure. Deuxième figure de la verticalité qui me semble particulièrement intéressante dans le cadre de cette journée, c'est le symptôme des étagères infinies. Des étagères infinies, d'ailleurs, avec la liaison. Colin Powell, célèbre individu, dans une interview qu'il avait donnée au New York Times, disait la chose suivante. On lui posait la question, c'est quoi le prochain livre que vous allez lire ? Et il dit, bah, c'est ça le problème, j'arrête pas de télécharger des nouveaux livres, je n'arrive pas à me décider lequel lire, le désir d'acquérir des livres électronique se fait tellement de façon impulsive et instinctive que je ne sais plus à la fin ce que j'ai sur mes étagères électroniques et quand je regarde, j'y vois des titres que je ne reconnais pas ou dont je ne me rappelle pas les avoir voulus ou les avoir achetés. Et on a, me semble-t-il, tous été... Ah oui, à ce point-là. On a tous été confrontés à ce problème des étagères infinies. Et troisième figure de la verticalité, c'est le défilement infini. Alors là aussi, sur Internet, vous avez aujourd'hui des sites qui proposent des fonctionnalités de défilement infini, infinite scrolling. C'est-à-dire que vous pouvez, pendant 2 heures, ça m'est arrivé, arriver sur un site et puis faire défiler, sans que jamais ça ne s'arrête, et toujours en faisant remonter des nouveaux contenus, ce qui est finalement, paradoxalement, un retour à l'ancêtre du codec, c'est-à-dire au volumen, avec tous les problèmes qu'on connaissait. Et voilà. Alors, ce changement de paradigme, ce passage de l'horizontalité à la verticalité, il fait remonter une question cruciale, qui est la question des métadonnées. C'est-à-dire que... Une fois qu'on est descendu, une fois qu'on est tout en bas, eh ben, il faut essayer de remonter. Et pour remonter, comme solution, on n'en a pas beaucoup, on n'a que la question des métadonnées. C'est-à-dire que les métadonnées sont les outils, les repères, qui vont nous permettre, à partir d'une fois l'expérience de la descente, de l'immersion dans la collection effectuée, qui vont nous permettre de structurer notre démarche et d'aller chercher, hein, une fois qu'on s'est noyé là-dedans, d'aller repérer les éléments qui font sens et les éléments qui nous intéressent. Quatrième question, c'est la question de la médiation. Alors là aussi, Internet a un petit peu bouleversé tout ça. Je vous ai mis le triangle classique de la médiation, où on a des usagers, des ressources et des médiateurs qui sont à proximité, hein, qui sont dans un espace en général physique d'ailleurs. Internet éclate évidemment ce cadre-là, puisque les ressources sont éparpillées, les usagers sont également éparpillés, ils ne sont plus dans ce lieu qui était la bibliothèque. Et puis, il y a également un phénomène de babélisation des médiations. De la même manière qu'il y a un phénomène de babélisation des expertises, c'est-à-dire que ben, les gens qui ont mis en place des Tumblr sur les plus vilaines couvertures des puffs deviennent des experts de la présentation de ce domaine éditorial. Cinquième question, et dernière, c'est la question du stock versus la question du flux. Avant, le stock, c'était... l'objet culturel, la ressource documentaire, c'était le livre, le CD, le DVD, etc. Et sur ce stock-là, on avait des logiques de flux qui, de prescription, de vente, de conseil, qui étaient assurées par, soit par la pub, soit par des bibliothécaires faisant autorité. Et aujourd'hui, tout ça s'est inversé, c'est-à-dire que le stock, ça devient l'attention, la capacité à mobiliser l'attention des gens sur des ressources documentaires, et le flux, c'est le produit. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Parfois, on a des petites erreurs d'aiguillage, on a des petites erreurs de flux. Et en décembre 2011, sur Gallica, suite à un petit aiguillage de flux, hein, on a aspiré le mauvais flux, on a vu apparaître pendant un très bref instant, parce que les gens sont très réactifs de Gallica, on a vu apparaître un certain nombre d'ouvrages qui n'avaient pas trop leur place, disons-le, sur cette plateforme-là, mais qui ont drainé du coup énormément d'attention, parce que tout de suite, la nouvelle s'est répandue, tout le monde en a parlé, donc voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières et les petits flux, les grandes attentions. Alors, très rapidement pour conclure, il y a un choix qui est clair qui se pose entre des phénomènes de collection, c'est-à-dire une logique archivistique, j'ai un cadre, une classification, etc. Et à l'intérieur de ce cadre, je vais faire des choix, je vais structurer une politique documentaire, je vais faire des acquisitions. Et puis il y a un autre cadre qui est celui de la logique algorithmique de l'itération. Un algorithme, c'est quoi? C'est une formule mathématique de départ. On fait le choix de la formule au départ et après, on laisse les mathématiques faire leur travail, c'est-à-dire on laisse l'algorithme, le programme, effectuer les choix à notre place sur la base des critères qu'on lui a indiqués au départ. C'est de cette manière-là que Google fait le choix d'indexer ou non une page web. C'est en fonction des critères qui sont définis dans son algorithme. Et si on veut aujourd'hui saisir et intégrer la question de ces collections dans numérique, du numérique à l'intérieur du métier des bibliothèques, eh bien, il faut arriver à hybrider ces deux approches-là. C'est-à-dire évidemment conserver des cadres théoriques, méthodologiques, pratiques, etc. Mais en même temps, se servir des outils d'itération qui sont en place. Donc accepter déjà culturellement qu'un algorithme puisse de manière automatique faire un certain nombre de choix. Utiliser ces stratégies-là de manière professionnelle. Le site qui utilise le mieux ces outils de prescription, de recommandation automatique, c'est le site Amazon, hein, qui, dès que vous achetez quelque chose, vous propose des contenus semblables. Et puis, il faut accompagner aussi socialement ces logiques-là. Ce n'est pas naturel non plus pour les usagers de voir des choix faits à leur place par des algorithmes. Donc, il faut l'expliquer, il faut l'accompagner. Et donc, ça, c'est le travail de la médiation. Si on ne fait pas ça, le risque, c'est que, si on n'hybride pas ces deux aspects, le risque, c'est que... sans les bibliothèques ou sans ces compétences qui viennent du monde des bibliothèques, pour n'importe quel bien culturel acquis ou consulté, l'usager va d'abord se trouver confronté à des logiques de propriété. C'est-à-dire que quand vous voulez consulter quelque chose sur Internet aujourd'hui, on vous demande d'abord essentiellement de vous identifier. Où vous êtes déjà identifié sans le savoir, parce que vous avez ouvert votre Gmail le matin, et donc quand vous consultez une vidéo sur YouTube qui appartient à Google, bah, vous êtes identifié en tant qu'individu. À partir du moment où vous êtes identifié, vous avez ensuite à régler en tant qu'usager des problèmes de synchronisation, d'accès et de pérennité. C'est-à-dire que vous consultez votre site web depuis une tablette, depuis un ordinateur, depuis votre smartphone, vous avez acheté un bouquin, un e-book, si vous voulez le consulter sur iTunes, si vous voulez le consulter depuis vos différents appareils, il va falloir synchroniser tout ça et c'est souvent un petit peu compliqué quand on multiplie les terminaux d'accès. Et du coup, l'appropriation, ce qui est quand même la clé du métier des bibliothèques, permettre l'appropriation, devient quelque chose de très délicat pour l'usager. C'est de plus en plus difficile, paradoxalement, de s'approprier des ressources. Et le partage devient impossible ou quasiment impossible. C'est l'histoire des fameux DRM qui, sur un livre numérique, interdisent, par exemple, si vous l'achetez chez Amazon, de le prêter à plus de 5 personnes. Pourquoi 5? On ne sait pas, mais voilà, ils ont décidé que c'était 5, ce n'est pas 7. Donc vous achetez un produit culturel, vous le payez légalement et vous ne pouvez pas le prêter à plus de 5 personnes. Le travail des bibliothèques, c'est de s'emparer de ces questions pour remettre ça autour d'un cercle qui cette fois-ci serait vertueux, c'est-à-dire prioriser, faire remonter d'abord la question du partage. Quand vous entrez en bibliothèque, vous le savez, on ne vous demande pas de vous identifier. D'accord. Donc vous avez un anonymat de la lecture, de la consultation qui est garanti. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et pas uniquement aujourd'hui. On parle beaucoup médiatiquement de la NSA, des écoutes, etc. Cette confidentialité de la lecture, de la consultation, est une, à l'échelle du faire société, est une question qui me semble absolument vitale. Quand cet anonymat, quand ce partage est garanti, ben derrière, ça devient beaucoup plus facile de mettre en place des logiques d'appropriation, de synchronisation, d'accès. Et ensuite, derrière, évidemment, on se pose la question de la propriété. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de partir avec des œuvres que vous avez consultées en bibliothèque, ou en tout cas, les œuvres qui sont dans les collections des bibliothèques sont des œuvres pour lesquelles les questions de droit ont été réglées ou sont explicites. Voilà, donc, pour conclure cette fois-ci vraiment, je dirais qu'il faudrait arriver en quelque sorte à oublier cette idée de la bibliothèque comme troisième lieu. On a beaucoup parlé de ça, il y a un excellent dossier du BBF sur la bibliothèque troisième lieu. Et il faudrait revenir à la bibliothèque tout simplement comme lieu commun. Lieu commun dans la double acception du terme, c'est-à-dire finalement la bibliothèque comme un mème, donc un élément d'une culture qui se transmet par imitation et à l'intérieur duquel l'élément structurant va être précisément l'accès par collection, et profiter de cette approche de la bibliothèque comme lieu commun pour faire le lien avec une autre thématique qui me semble essentielle, qui est la thématique et le mouvement des biens communs, qui est notamment porté par un certain nombre de collectifs, dont le collectif Savoir Commun. Voilà, donc je dirais que pour conclure, l'avenir des collections, je vous ai mis ici donc un petit mème, ce sont des bibliothécaires qui catalogueraient par la pensée des collections de chats. Voilà, j'aime bien finir sur des notes étranges. Je vous remercie de votre attention.